Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Vroom vroom. Plus question de séduire avec le compteur. Renault vient donc d'annoncer qu'il allait plafonner à partir de 2022 la vitesse de ses véhicules à 180 km/h. Objectif affiché, faire baisser le nombre de morts sur la route. Qu'en pensez-vous? Alex est avec nous, qui est chauffeur routier en Allemagne. Bonjour.
Bonjour Pascal, comment allez-vous?
Écoutez, ça va excellemment. Et vous?
Bah écoutez, je suis encore une fois de plus effaré par ce que j'entends. Quoi. C'est quoi le projet ultime exactement de Renault? C'est perdre des parts de marché? C'est perdre des clients? C'est quoi exactement? Parce que nous en Allemagne, 180 km/h sur les autoroutes vertes, hein, les grunes autobahn, c'est une vitesse moyenne. Voilà.
Donc, vous allez me fâcher, Alex. Mais donc, comme c'est le début de l'émission, je vais pas essayer de me fâcher, mais bon.
Non, Pascal, je vais prendre. Quand je suis en France, je roule à 120 km/h. Savez-vous pourquoi?
Parce qu'il y a des gendarmes.
Non, c'est limité à 130. Le gasoil ou l'essence est hors de prix. Et la différence entre 130 km/h et 120 km/h, c'est 4 minutes et 1 litre de gasoil en moins aux 100 km. Mais quand je suis en Allemagne. Déjà, un, j'ai le droit de rouler à 250 ou à 300 si j'ai la voiture qui va avec. Ça, c'est le petit 1. Et le petit 2, en Allemagne, on doit rouler. On doit fluidifier le trafic. C'est le principe même des autoroutes.
Enfin, pour rouler à 180, faut qu'il y ait... ça demande des conditions très particulières. Moi, ça a dû m'arriver de le faire en pleine nuit, un soir, j'imagine. Même si je suis plutôt peureux là-dessus par nature. Non, mais s'il y a des voitures devant vous... Attendez, je termine. S'il y a des voitures devant vous, mais il faut être un pilote de course pour rouler à 180 km/h.
Pascal, il faut bien différencier deux choses en Allemagne. En Allemagne, nous avons des industries, nous avons des villes qui sont surpeuplées. Là, c'est limité à 80 ou 120 km/h. Dans les travaux, c'est limité à 50, il y a des radars de partout.
Non, mais je parle sur l'autoroute. Mon exemple, pour être à 180, il faut qu'il n'y ait personne sur la route.
Mais sur les autoroutes, pour relier deux grandes villes, là je viens de faire Wurzburg-Nuremberg, il y a 180 km, c'est une autoroute verte. Il n'y a personne.
S'il n'y a personne devant vous, déjà ça peut être dangereux, mais il n'y a personne. Mais dès qu'il y a un peu de trafic, vous ne pouvez pas être à 180 km/h, Alex.
Ah bah attendez.
Ça demande une concentration, ça demande une expérience, une habitude. Moi je pense que ça doit être très stressant d'ailleurs de rouler à 180 km/h. C'est pas à la portée de tout le monde.
Vous n'êtes pas obligé de rouler à 180, vous pouvez rouler à 120, vous pouvez rouler à 110.
Oui, mais ce que je veux dire,
vous roulez à ce que vous voulez. Mais s'il y a une voiture, attention, s'il y a une voiture qui déboule derrière vous à 250 et que vous lui coupez la route pour essayer de doubler péniblement à 110 km/h, je ne voudrais pas être dans votre voiture, parce que l'autre, il va vous percuter. Quoi.
Oui, enfin, c'est le Far West. L'autoroute du Grün, c'est le Far West, votre truc. Non, donc je vais me faire doubler par une voiture à 250 à l'heure. Il y a des voitures qui roulent à 250 à l'heure en Allemagne.
Même la police. Même la police.
Enfin, bon,
c'est
moi,
le principe des autoroutes vertes. Non, bah bon.
Mais il y a combien d'autoroutes vertes en Allemagne?
Oh, il y a à peu près un tiers du réseau.
Donc il y a un tiers du réseau, on peut être à 250 à l'heure, si on veut.
Oui, si vous voulez, oui. Entre, par exemple, je vous donne un exemple.
J'ai pas ce souvenir-là. L'autoroute... Moi, j'avais fait la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. J'avais l'impression que les... D'abord, je trouvais que les autoroutes étaient beaucoup moins sécurisées qu'en France. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de travaux par rapport aux autoroutes françaises. Et il ne me semblait pas qu'elles étaient toutes autorisées.
Attention, parlons de choses concrètes. Tous les ponts qui enjambent le Rhin sont en travaux. Oui, ça fait 20 ans que ça dure leur histoire, mais les autoroutes vertes en pleine pampa, tout le monde roule comme des sauvages. On n'a pas que ça à faire.
Ah ben vous venez de le dire vous-même. Mais arrêtez, on n'a pas que ça à faire. Mais franchement, Alex, je voudrais prendre l'emploi du temps de celui qui roule à 250. Vraiment, c'est bon. Enfin, c'est pas vraiment le débat de toute façon. Le débat, c'est est-ce qu'il faut brider les voitures.
Brider les voitures, oui, en France, oui. Oui, mais si vous voulez avoir des problèmes mécaniques, allez-y, quoi. Je vais juste vous donner un petit exemple. J'avais une moto, une 1200 GT BMW qui n'était pas bridée. Un Français avait une BMW 1200 GT bridée à 116 chevaux. Sa moto vibrait en permanence. La mienne ne vibrait pas.
Oui, c'était
le bridage. Ensuite, 180 km/h en France, oui, bah allez-y, bridez. Par contre, si les gens disent, oui, bah non, moi j'achète une voiture, je veux qu'elle soit full, eh ben, il ira chez Peugeot, le gars. Et puis Renault perdra le contrat. Renault perdra le marché. C'est ça que je veux vous dire, tout simplement. Le budget, l'ultime projet de Renault, c'est quoi? C'est vraiment faire couler la boutique ou bien? C'est ça, quoi, je veux dire. À la limite, il pourrait le brider, mais sans le dire aux gens.
Eh ben, ça serait.
Tout simplement. Voilà. Et puis, les voitures, maintenant, sont équipées de bridage automatique. Moi, ma voiture, si j'en ai envie, j'active mon bridage automatique. Elle lit les panneaux, enfin, via le GPS, elle lit le panneau. Ma voiture se bride automatiquement. Quand je suis en France, d'ailleurs, je roule comme ça. Je roule à la vitesse légale. Tout simplement. Mais brider une voiture, je ne suis pas bien sûr que ce soit, d'un point de vue marketing, très intelligent, quoi. C'est vraiment même idiot, quoi.
Ben, vous savez, le monde a changé. Et il est possible, et Martial You expliquait ça tout à l'heure, qu'au contraire, certains qui sont sensibles, pourquoi pas à l'écologie, pourquoi pas à une manière différente de vivre, d'appréhender la voiture, soient sensibles à cette campagne de communication. En tout cas, j'imagine que si le directeur marketing l'a lancé, c'est qu'il avait quelques billes dans sa poche et quelques idées ou quelques informations là-dessus, j'imagine.
Les routiers, Pascal, nous avons deux choses. On a une carte tachygraphe pour savoir combien de temps on travaille, combien de temps on roule. Et nous avons aussi tous les 5 ans une formation qu'on va appeler Code 95. Une FIMO, si vous préférez, une FCOS, formation continue obligatoire de sécurité. Dans ce type de formation, quand j'ai commencé la route, mon camion consommait 40 litres 100 en 1995. Aujourd'hui, avec 40 tonnes au sol, je consomme péniblement 24-25 litres au sol. Pourquoi ? Parce que tous les 5 ans, je vais en formation et j'apprends ce qu'on appelle la conduite dite rationnelle.
Bon, bah écoutez,
là, c'est de l'écologie. Là, c'est de l'écologie. De l'intelligence.
Vous êtes drôle quand même, Alex. D'un côté, vous prenez des cours pour une conduite rationnelle et de l'autre, vous êtes à 250 à l'heure sur une autoroute en Allemagne.
Mais quand je suis avec mon camion, Pascal, en conduite rationnelle.
Vous êtes dans la conduite irrationnelle.
Oui, mais complètement.
Non, mais c'est rigolo. Quoi.
Mais c'est notre liberté, Pascal.
Ah bah oui, bien sûr, c'est la liberté.
Prend notre liberté.
Bien sûr, c'est la liberté de rouler à 250. Mais moi, vous savez, à un moment, moi, je parle plus. Hein. Je réponds plus.
Mais Pascal, vous vivez à Paris. La personne qui roule à 250 à Paris, c'est un crétin fini. Mais moi, en Allemagne, j'ai droit, j'y vais. Quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Quoi. Ça me fait
Alex,
plaisir.
Alex, ne changez rien. Tout va bien. Tout va bien, Alex. Merci beaucoup. Vous êtes sympathique en tout cas et vous avez le sourire et c'est le plus important. Greg, vous n'avez pas de trottinette. Vous roulez en trottinette, vous, je crois.
Oui, il m'arrive de rouler en trottinette.
Vous faites partie de ce peuple qui roule en trottinette désormais.
Oui, mais au moins, je ne roule pas à 250 km/h, vous direz.
Vous avez raison, mais c'est dangereux la trottinette.
Les trottinettes qui sont bridées d'ailleurs à 20 km/h.
Non.
Si, bien sûr.
Les trottinettes sont bridées.
Je crois que je ne peux pas dépasser les 20 ou 21 km/h.
C'est pas vrai.
Si.
Attends, on ne me dit rien.
Ah bah, vous vous intéressez pas aux trottinettes, que voulez-vous ?
Je regarde cela de loin.
C'est mieux pour tout le monde.
La pause. Et peut-être une petite playlist auto aujourd'hui.
Ah bien sûr.
Vroom vroom. Vous
pouvez le refaire ?
Vroom vroom.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'adore votre chorégraphie. Je vous conseille la vidéo sur RTL.fr.
Ça, c'est la playlist voiture. Parce que c'est quoi? Laisse-moi dans ta Benz, c'est NTM. Mais avant, c'est quoi la phrase? En tout cas, c'est Joe Star.
C'est de la poésie.
Ça a 25 ans. Hein.
Vous écoutiez?
Je suis fan d'NTM, bien sûr.
Enfin, on doit dire aux auditeurs que c'est Pascal qui nous a suggéré ce titre. Hein.
Évidemment, mais attendez, vous me prenez pour qui? J'écoute pas que Nana Mouskouri, j'écoute aussi Joe Star ou les compagnons de la chanson. Allez-y.
C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Renault compte limiter la vitesse de ses futurs modèles à 180 km/h. Premier avis, il y a quelques secondes, d'Alex, chauffeur routier.
C'est quoi le projet ultime exactement de Renault? C'est perdre des parts de marché? C'est perdre des clients? Parce que nous, en Allemagne, 180 km/h, sur les autoroutes vertes, hein, les Grünes Autobahn, c'est une vitesse moyenne.
Faut-il aller plus loin, brider toutes les voitures? Pourquoi ne pas le faire à 130 km/h? Est-ce suffisant pour la sécurité routière, épargner des vies? Anne Lavaux, la déléguée générale de l'association Prévention Routière, était l'invitée de RTL Midi à Christelle Robière.
Ce bridage ne sert absolument à rien. Si vous circulez
dans les rues de Paris, de n'importe quelle ville, qui sont limitées à 30 km/h ou qui sont limitées à 50 km/h, si vous avez un enfant qui passe avec son ballon devant et que vous roulez à 80 km/h, d'avoir un véhicule bridé à 180 ne sert à rien.
Je ne comprends pas l'intérêt de brider à 180 km/h, écrit Xavier sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Nous n'avons pas le droit de circuler à cette vitesse, autant à brider à 130 directement. Le constructeur tente de se donner bonne conscience, selon Marie. Anaïs s'énerve sur nos réseaux sociaux. Ça n'empêchera pas les fous de rouler à vive allure en ville ou même sur l'autoroute. Mais pour Jackie, qui assume son message, nous retournons petit à petit au Moyen-Âge. Bientôt, nous pousserons notre charrette en bois.
Merci. Nous sommes avec Serge, qui est gérant d'auto-école, qui habite Cherbourg.
Bonjour Pascal.
Et nous sommes sur les voitures bridées à 180 km/h. C'est Renault qui le propose et on pourrait élargir. D'ailleurs, est-ce qu'il faut brider selon vous toutes les voitures parce qu'on n'a pas le droit de rouler au-delà de 130? C'est pas stupide de dire ça?
Si vous voulez, Pascal, j'ai entendu un nombre de dâneries par votre précédent auditeur qui vont me faire ma semaine. Est-ce que vous savez combien de mètres on parcourt à 200 km/h, Pascal?
À 200, vous me prenez là, je sais pas, combien à la mètre seconde?
Mètre seconde, ouais.
À mètre seconde, au moins 20 mètres.
Ouais, au moins 20 mètres. On fait 60 mètres.
60 mètres, au moins 20.
60 mètres, c'est ça. En une seconde. Et la distance d'arrêt.
Mais vous avez 100% raison.
C'est tout simple. La distance d'arrêt d'un véhicule à 200 km/h, c'est 400 mètres. C'est-à-dire entre le moment où la personne perçoit le danger et le moment où la voiture s'arrête, c'est 400 mètres.
Mais évidemment,
alors,
vous avez
l'autre,
raison.
L'autre, là, sur ces autoroutes, il est bien gentil. En Allemagne, tout ça, on a le droit de faire ça. Mais c'est du grand n'importe quoi. Il parle de responsabilité. C'est du grand n'importe quoi. Brider des voitures à 180, je suis d'accord avec la dame de la prévention routière. Ça sert strictement à rien.
Mais il faudrait les brider. D'abord, est-ce qu'il faudrait les brider, à votre avis, toutes?
Moi, je veux bien qu'on bride les voitures à 180, mais alors, en échange, j'aimerais bien que la sécurité routière, qui brille par son absence et son silence, propose, par exemple, que, en cas de grand excès de vitesse, c'est-à-dire plus de 40 km/h, la saisie systématique des voitures soit faite. Des voitures
c'est le cas.
Soit faite. Non, pas du tout. C'est en cas de récidive.
Ah
c'est
bon
en cas de récidive.
Je crois que si on était arrêté à 180 et que
c'est limité à
130, quoi qu'il arrive, vous repartiez pas dans votre voiture.
Alors, vous repartez pas dans votre voiture, mais la saisie du véhicule
au profit
de l'État, c'est en cas de récidive.
Saisie, c'est-à-dire qu'on pique les voitures, là, ce que vous dites.
Exactement.
Ah oui,
exactement.
Ah, très bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Vous avez raison.
Parce que on peut pas rouler à 90 km/h en agglomération sans avoir une sanction derrière. Donc, quand vous vous êtes fait piquer une Porsche
très bien ça. C'est 40. Je dirais 50. Vous voyez,
Non, 50. C'est 40 le grand excès de vitesse. C'est pas moi qui décide, c'est le législateur.
Non, mais pour saisir la voiture, on pourrait dire 50.
Pourquoi pas.
Parce que là, effectivement, t'es vraiment en dehors des clous, si j'ose dire.
Que ce soit systématique, parce que sinon, c'est du grand n'importe quoi.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faudrait brider toutes les voitures à 150, par exemple, puisque partout, c'est limité, le plus haut, c'est 130 sur l'autoroute. Est-ce qu'il faut que ce soit une mesure possible?
Si ça nous amuse, mais Volvo.
Et pourquoi vous voulez pas, ça que je comprends pas, pourquoi vous dites si ça nous amuse, les gens iront pas au-delà de 150?
Parce qu'on n'a pas le droit de rouler à 180 ou à 150, donc pourquoi voulez-vous...
Oui, mais ils y vont, les gens.
Hein?
Les gens, ils roulent au-delà de 130.
Dans ces cas-là, on leur pique leur voiture, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je suis d'accord, mais on peut pas avoir un policier derrière chaque conducteur, parce qu'avec mon système, les voitures ne peuvent pas aller au-delà de 150.
Si vous voulez, mais 180, 150, si vous voulez, on est à la marge. On est à la marge. En plus que Renault dise que c'est pour la sécurité routière, là, c'est extraordinaire, pour baisser le nombre de tués et tout ça. De toute façon, avec les véhicules électriques, vous savez, quand vous roulerez à 180, vous roulerez pas loin. De toute façon...
Vous êtes gérant d'auto-école, hein?
Oui, absolument.
Bon. Dans quelle voiture, d'ailleurs, on passe aujourd'hui, on apprend à conduire?
Alors nous, on a des véhicules hybrides. Depuis 2013, on travaille avec des véhicules hybrides, donc automatiques, Toyota, et puis on roule
d'accord
avec des véhicules.
Est-ce que vous souvenez-vous la voiture dans laquelle vous avez appris à conduire?
Non. J'ai passé en 86, peut-être une R5, quelque chose comme ça. Maintenant, on est en Yaris.
C'est intéressant.
Et on a maintenant, tiens, ça c'est intéressant aussi, on avait avant 40% de boîte auto et 60% de mécanique, et on est maintenant sur 60% d'automatique et 40% de mécanique.
Oui, une fois qu'on a goûté à l'automatique, c'est agréable, donc on n'a plus envie de la boîte mécanique.
Mais au-delà de ça, les autorités veulent arrêter le thermique, et comme tout ce qui est voiture électrique et tout ce qui est voiture hybride, ce sont des véhicules automatiques, la boîte de vitesse va faire comme aux États-Unis, elle va disparaître.
Bah écoutez, merci de ces précisions.
Je vous dis, avec une voiture électrique, on ne roulera pas longtemps à 180 km/h.
Non. Mais de toute façon, avec une voiture électrique, on ne roule pas longtemps, tout court.
Non, mais il faut être taré. Pour rouler à 180, il faut être taré. En Allemagne, vous imaginez, vous roulez à 110, et vous le disiez très bien d'ailleurs, vous vous faites rattraper par une bagnole qui roule à 250. La personne à 250 km/h, elle fait, je vous disais tout à l'heure, 60 mètres en une seconde, plus de 60 mètres en une seconde, 75 mètres. Enfin, faut être
on va demander à Greg Caranoni combien de mètres il fait avec sa trottinette en une seconde en Paris.
Il doit faire 6 mètres, s'il roule à 20 km/h, il doit faire 6 mètres.
Voilà, exactement.
On chiffre des dizaines et on le multiplie par 3.
Attendez, il faut que je note ça, parce que moi j'ai dit, ce soir je vais épater si je rencontre des gens.
Ah oui, dans les dîners en ville.
Ah ouais, donc vous pouvez dire ça, c'est la petite info. Non, arrêtez. La petite info pour briller en société. Vous pouvez nous dire, faut multiplier.
Alors, on prend le chiffre des dizaines et on le multiplie par 3.
Donc le chiffre des dizaines.
Alors, à 50 km/h, ça fait 15 mètres secondes.
D'accord, le chiffre des dizaines par 3.
Si vous faites la vraie opération,
d'accord.
Si vous faites la vraie opération, vous allez arriver à 13,88 m. Donc, vous voyez que vous êtes quasiment dessus.
D'accord. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit 250, le chiffre des dizaines.
Voilà, ça fait 25 multiplié par 3.
Alors là, c'est plus des dizaines, d'accord. 25 multiplié par 3, c'était 75. D'accord.
Voilà. Et si vous voulez le chiffre de la distance d'arrêt, vous reprenez ce chiffre des dizaines et vous le multipliez par lui-même ou vous le montez au carré.
Vous m'avez un peu perdu.
C'est clair, Pascal.
Maître Capello, merci.
50 km/h, vous mettez 25 mètres pour vous arrêter entre le moment où vous voyez le danger et le moment où vous arrêtez. Et 130, vous mettez 169 mètres.
Patrice Lafont.
Ah ben, il faut avoir fait un peu de maths pour être moniteur auto-école. Hein.
Bien sûr. Patrice Lafont qui animait le. D'avez pas connu Patrice Lafont quand il animait le mot le plus long. Non, c'était pas les jeux de 20 heures, c'était le mot le plus long et le compte est bon. Il disait monsieur Schneider.
En tout cas,
572. Et l'autre disait pas mieux.
Et roulez prudent.
Oui, merci. Merci. Alors nous, on roule prudent. On roule en trottinette. À tout de suite. Et on aura peut-être une petite chanson après. Chanson playlist spéciale moto-auto.
Absolument, c'est prêt.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a.
Mais quel est le rapport?
C'est Renaud.
Oh. Ah non, mais l'esprit est roi. Là. Dans cette émission, l'esprit est roi. Bon, vous êtes pardonné parce que cette chanson est sublime. Et je précise qu'elle n'a aucun rapport avec, évidemment, notre éditorialisation du jour. On est sur 180 km/h. Renault, qui a précisé donc brider les voitures. Je parle du constructeur automobile. Et ça vous fait réagir. Nous sommes avec Didier, qui est représentant de Commerce. Bonjour Didier. Oui.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Qu'en pensez-vous ?
Eh ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir pris pour cette émission. Je voulais vous remercier pour vos émissions.
Vous êtes gentil.
Vous féliciter pour toute émission que vous faites, même à la télévision.
Vous êtes gentil.
Voilà. Je vous en prie. Je suis de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Voilà.
Eh ben, écoutez, donc, j'espère que ça se passe bien aussi.
Parfaitement. Eh ben, sur le sujet, moi, je fais 50 000 à 60 000 km par an. La route, je connais bien, j'ai 59 ans. Le projet de Renault n'est pas, au fond du même, n'est pas une mauvaise idée. Mais, limité à 180, pourquoi 180 ? On pourrait dire 150, on pourrait dire 130, on pourrait dire. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit tous les constructeurs qui fassent ceci. Parce que si Renault fait bride ses moteurs, bon, c'est bien. Mais après, il faut que tous les autres constructeurs fassent pareil. Allez dire à BMW de brider leur moteur à 180. Ça ne vaut pas être facile.
Mais pourquoi ? Oui, je suis d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, on sait bien que ces voitures-là, je disais tout à l'heure, Porsche également, si vous bridez les Porsche à 130 ou 150, forcément, celui qui achète une Porsche, il n'y voit plus le même intérêt, parce que même s'il n'a pas le droit de rouler au-delà de 130, la vérité c'est que il, de temps en temps, j'imagine, tard dans la nuit, il doit prendre son petit risque pour aller un peu plus vite. Mais bon.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça le regarde.
Tout à fait, ça le regarde. Mais disons que, bon, et puis Renault, ben, joue le jeu peut-être pour se donner une bonne conscience au niveau d'écologie, maintenant, qui est à la grande mode et qui est quand même un grand sujet d'actualité, je pense. Et puis, il se donne, et puis une bonne conscience aussi pour la, au niveau de la sécurité routière. Mais pour moi, c'est du marketing pur et simple. Hein.
Oui, c'est une manière de faire parler de soi. La preuve, c'est réussi, on en parle.
Tout à fait, moi le premier. Donc voilà, après le monde...
Et c'était la une du Parisien ce matin.
Tout à fait, je ne l'ai pas lu. Mmh. Et la construction automobile ne se porte pas très bien depuis un an, là, depuis un an et demi. Donc c'est un moyen de relancer aussi le marketing. Hein. Mais bon, après, la meilleure solution, vous savez, vous avez fait l'émission en début, la semaine dernière. Vous savez, moi j'ai un régulateur de vitesse. C'est une grande chance qu'on a maintenant dans les voitures. Une voiture automatique avec un régulateur de vitesse, eh ben moi, tout de suite, je me mets à 83 sur les routes départementales, à 110 quand c'est 110, je me mets à 113 et à 133 sur les autoroutes.
Non, mais je suis d'accord. Moi, voilà. Le petit régulateur, c'est vraiment c'est ça. Ça a changé les vies, en fait.
Mettre à 50, ouais. Ouais, tout à fait.
Donc, ça a changé
après,
les vies.
Chacun doit être responsable de sa conduite. Mmh. Moi, je vois trop de choses sur la route. Des bonnes, je vois de très bonnes choses, mais je vois trop de mauvaises choses, hein, des mauvais gestes, des actions de conduite qui sont... Je ne suis pas à l'abri de faire une mauvaise action. Mais bon, quand je suis continuellement en éveil, voilà, donc après, on voit trop de mauvaises choses, il y a trop d'accidents encore sur la route. Donc, que Renault bride les moteurs, ce n'est pas une mauvaise idée en lui-même. Mais il y a longtemps que ça devrait être fait, ça. On ne peut pas appuyer, on voit qu'on ne peut pas monter à plus de 150, le moteur, bah, il refuse, et bien terminé, et voilà. Puis ça calmera certaines personnes quand même. Hein. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez bien leur faire des lois, leur supprimer le permis, ils le repassent un an après, même si deux ans après, ils remontent dans une voiture, mais ils conduisent comme des fous. Hein.
Oui, il y a surtout, paraît-il, beaucoup de gens, il y en aurait 700 000 en France qui roulent sans permis.
Mais tout à fait.
Parce que repasser le permis, je peux vous dire qu'à mon âge, par exemple, repasser le permis, ça doit être coton. Parce que faut la leçon encore, ou la conduite, ça peut aller, mais il faut avaler tout le code.
Le code de la route.
Et oh, évidemment, tu n'es peut-être pas aussi souple que, ou élastique que tu l'étais lorsque tu avais 18 ans pour apprendre et apprendre encore. Hein. Ça peut être un effort.
Et entièrement, moi, qui est sur la route tous les jours, moi, je fais un peu mal de campagne quand même, parce que c'est pas la grande ville. Hein. Il y a Mâcon, il y a Chalon et tout ça. Mais bon, je vois des panneaux, il y a des fois, ils me posent la question encore. Hein.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que je me demande, il y a des panneaux qui sortent, me dit qu'un, ça veut dire quoi ce panneau?
Ah oui, presque, hein. Des panneaux que vous ne connaissez pas.
Il y a des panneaux, on n'arrive pas à connaître. C'est pour ça qu'aussi, moi, je suis partisan. Ah oui. Vous allez trouver ça peut-être drôle, mais je suis partisan de faire de temps en temps une refaire des formations.
Oui, mais moi, je suis pas partisan. S'il vous plaît, Didier, soyez sympa. Si vous pouviez ne pas nous mettre un truc en plus, ça
non,
suffit.
Vous
voyez,
raison,
une petite formation en plus, si c'était possible, ça, Didier. Si ça vous ennuie pas.
Oui, sans problème. Sans problème. Ça peut vous faire plaisir. Je suis d'accord avec vous. Même pour moi aussi. Hein.
Bon, mais vous avez tous vos points?
Oui, non, j'en ai 8.
Ah, c'est pas mal, 8.
Oui, tweet. C'est bon, mais c'est moi, ils sautent, c'est par un point. Un point à la fois.
On est tous pareils.
C'est-à-dire que j'attends 6 mois pour leur avoir, et puis il manque de peau. Et ben, il y a un automatique qui se trouve là. Et puis, j'ai la pensée dans mon commerce. Il y a un client qui est en train de m'appeler sur Bluetooth. Alors, je pense à mon travail ou à autre chose. Et ça flash. Et puis, c'est pas bien haut, mais bon, c'est 45 euros. Et
c'est vrai. Moi, je suis spécialiste également du 1 point. Ça part par 1 point. Je suis d'accord avec vous.
Voilà, moi aussi. Voilà.
Bon, je vous remercie beaucoup, Didier.
Mais c'est moi, merci de
Je vais faire un petit stage bientôt, je pense.
Merci d'avoir pris mon appel.
Il s'en fiche. Didier, je vais faire un petit stage, je vous en prie. Je vais faire un petit stage.
Non, je m'en fiche pas, je vous écoute.
Non, je blague, Didier. Je vais faire un petit stage. Un vendredi, je ne serai pas là parce que je vais faire un petit stage vendredi et samedi, je pense.
D'accord.
Il faut que je récupère 4 points d'un coup avant l'été.
Eh bien, c'est très bien, un petit billet de 200 euros, c'est bon.
Voilà. C'est 200 euros?
Oui, ça dépend des endroits. Il y en a, c'est 230, 200, 140. Oui, tout dépend. Tout dépend où vous êtes.
Parce que je n'ai fait qu'un stage. C'était il y a longtemps. Hein. Il y a plus de 10 ans. Je n'ai fait qu'un stage. Et là, je vais en faire sans doute un deuxième. Il faut que je m'inscrive. Mais je savais pas que c'était 200 euros.
Ah non, c'est à peu près les tarifs. Hein, 140, 160. Ça dépend des endroits. Hein. Il y a des fois 200.
C'est en fonction du kilomètre heure.
Voilà, du kilomètre heure, puis de la tête que vous avez sûrement.
Bon.
Voilà.
Bah merci Didier.
Vous allez vraiment faire un stage?
Ah, je vais vraiment faire un stage. Faut que je m'inscrive un vendredi, je serai pas là.
Ah non, mais c'est pas vrai. Mais comment
vendredi,
on va faire?
Je sais, vous ferez sans moi. Un vendredi, parce que en fait, c'est 2 jours le stage, donc je le prendrai le samedi aussi. Mais il y aura un jour sur semaine, donc ça sera un vendredi. Ce sera le premier vendredi que je manquerai depuis que je fais les auditeurs. Ou première journée que je manque. Faut bien.
Vous nous manquerez en tout cas.
Bah non, monsieur Tessier fera ça très bien.
C'est lui qui fera l'émission.
J'en
tout seul.
Sais rien.
Il prend une RTT, me dit-il.
Il prend une RTT.
Attendez, ne me laissez pas seul. Hein.
Non, mais à ce moment-là, vous savez ce qu'on fait on devrait faire les auditeurs en direct, mais ils voudraient pas parce que avec les dans le stage. Ça serait formidable. Un spécial auditeur sont à la parole avec les gens qui sont en stage. C'est formidable les gens qui sont en stage, paraît-il. Tout le monde revient avec des anecdotes magnifiques. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Parfois je m'imagine sur la route des vacances. En bon chef de famille au volant d'un monospace avec un cercle.
C'est monsieur Benabar peut-être.
Absolument.
Même sûrement.
Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets au standard. Soutenez-vous les militaires qui dénoncent le délitement de la France. La tribune signée par une vingtaine de généraux à la retraite appelle Emmanuel Macron à défendre le patriotisme. Ont-ils eu raison de s'exprimer? Philippe Devilliers était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
La semaine dernière, il y avait une vingtaine de villes où les policiers ont été pris à partie et on a eu le drame de Rambouillet. Donc, faut pas renverser les choses. Il faut bien voir que la guerre civile,
oui,
c'est
la
pas
tribune,
nous.
C'était avant,
la guerre civile, c'est pas nous.
La ministre des Armées, Florence Parly, demande des sanctions. Donc, lance-t-il sur nos réseaux sociaux. L'exécutif préfère sanctionner des vrais patriotes plutôt que d'agir contre une minorité qui pourrit notre pays. Honteux, scandaleux, révoltant. Je soutiens pleinement ces militaires, écrit. Ils ont raison, lance encore Eric, d'exprimer leur ras-le-bol, marre de cette violence gratuite. Et pour Ignace, toute vérité n'est apparemment pas bonne à dire. Nadine accuse les gouvernements successifs de laxisme. Partagez-vous ces avis. 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Et nous continuons la discussion avec Karim, qui est cadre dans l'automobile. Bonjour Karim.
Bonjour Pascal.
Donc ça va très très bien. Donc c'est un avis là de professionnel qu'on va avoir sur le bridage. On dit bridage d'ailleurs, c'est le mot qu'on emploie.
Oui, bridage en général.
Et bridage donc sur des voitures bridées à 180 km/h. Qu'en pensez-vous?
Bah, le problème, c'est que j'écoute depuis une demi-heure, mais c'est pas du tout ça la vraie raison. En fait, la vraie raison, c'est que Renault, c'est une société qui, depuis 2-3 ans, est en très grosse difficulté financière et elle perd des centaines de millions d'euros par an. Et au fait, en termes de production, un moteur qui est bridé à 180, c'est-à-dire qu'il n'est pas bridé, c'est un moteur qui va être produit pour ne pas dépasser les 180. Et un moteur qui ne dépasse pas les 180 coûte beaucoup moins cher qu'un moteur qui dépasse les 180. Et sachant que Renault fabrique à peu près 3 800 000 moteurs à peu près par an, vous imaginez le coût derrière. Et on parle pas de centaines de milliers d'euros, hein, c'est des centaines de millions d'euros. Et justement, et pourquoi ils lancent ce débat sur la place publique? Parce que en termes de marketing, c'est plus compliqué de dire, c'est plus simple de dire, voilà, on lance un moteur parce que pour la sécurité routière, etc. C'est beaucoup plus accepté que de dire, on lance un moteur à 180 parce qu'on a besoin de faire des moteurs un peu moins chers. Voilà. Donc c'est l'une des vraies raisons derrière tout ça, en fait. Surtout qu'ils ont un directeur général depuis 2020. C'était l'ancien directeur général qui avait sauvé Seat en Espagne. Ils l'ont mis pour remettre Renault sur la sellette en termes financiers. Et ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour
donc c'est qu'on comprenne bien, c'est par souci économique, le moteur qu'on mettra dans la voiture ne sera pas le même que celui qu'on aurait mis dans une voiture qui n'était pas bridée à 180, c'est ça?
Parce que ce n'est pas un moteur bridé, au fait. C'est un nouveau moteur qui sera produit pour ne pas dépasser les 180.
D'accord.
Ce n'est pas la même chose.
Oui, ce n'est pas la même chose.
Bridé, ça veut dire que c'est un moteur d'aujourd'hui.
Oui,
vous allez électroniquement brider. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est un nouveau moteur qui sera produit. Ce n'est pas la même chose.
Et donc, ce moteur sera meilleur marché.
Moins cher à produire.
Moins cher. Non, bah écoutez, c'est intéressant, effectivement, cette explication, je ne sais pas si elle est juste, hein, j'imagine, ça je vous laisse libre, arbitre.
Oui, bien sûr, mais sur, disons...
Mais c'est votre expertise. Mais sur le fond, est-ce que vous trouvez... Parce que, alors ça serait encore autre chose, parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas le même moteur, on aurait par exemple sur des grosses voitures, on aurait un moteur qui soit un peu plus léger, je ne sais pas comment dire, plus petit ou en tout cas moins performant, sur des grosses voitures... mais il ne pourrait pas aller au-delà de 130. Alors, on disait jusqu'à présent bridé. Mais vous, sur le fond, vous en pensez quoi ?
Bah, sur le fond, malheureusement, c'est peut-être, franchement, 180 km/h. Il faut les faire, les 180 km/h, hein, parce que moi je les ai jamais fait et je sais que
vous avez jamais roulé à 180?
Jamais, mais je quand je roule à 180, déjà quand je roule à 160, limite je mets aussi les pieds sur le volant parce que j'ai peur que le pied et les mains, tout mon corps.
Non, mais ça peut aller vite sur des voitures très puissantes.
Oui, mais après sur des voitures. Non, après j'ai jamais eu des voitures très puissantes, mais c'est peut-être ça la raison. Mais après il faut regarder les pourcentages. Je pense que je sais pas. Je peux dire une fois que les pourcentages d'accidents mortels, c'était pas plus lié à la vitesse, c'est plus.
Ah si, c'est la première cause d'accident, la vitesse.
Mais pas les 180 km/h. Pas les 180.
Ah ça non, pas 180. Mais la première cause d'accident de voiture, c'est la vitesse, devant l'alcool et devant la drogue.
Le vrai sujet, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est au-delà de 40 ou 50 km/h, c'est-à-dire la voiture. Mais les 180 km sur autoroute, pour moi, c'est pas ça qui est le plus dangereux.
On va être avec Pascal, parce que Pascal, voilà. Il va nous amuser, si j'ose dire, puisque lui, il dit qu'il va souvent au-dessus de 180 km/h. Donc je pense qu'on va passer un bon moment avec lui. Si j'ose dire, je le dis au second degré, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et nous reviendrons peut-être avec une petite chanson de nouveau que nous aura trouvé Greg Caradoni. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer.
Pascal.
Oui.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Comment allez-vous Pascal ?
Très bien.
Alors, vous intervenez pour les voitures bridées à 180 km/h, qui est une initiative de Renault, et on l'élargit d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait brider toutes les voitures à 180 km/h ? Et je voulais connaître votre réponse.
Ben moi, je suis pas nécessairement pour, dans la mesure où j'ai une vie qui passe par l'automobile, donc. Déjà, c'est un peu particulier, mais bon, j'entends des gens que le précédent auditeur disait que lui, il a jamais roulé à 160, il commence à avoir peur. Donc, je réitère ce que j'ai dit à celui qui m'a reçu tout à l'heure, c'est que effectivement, personne n'est égal au volant. Vous avez des gens qui sont incapables de rouler à plus de 150 km/h et ils doivent pas le faire parce qu'ils en ont peur. Mais vous avez d'autres personnes qui sont capables d'aller beaucoup plus vite et parce que c'est en eux, on va dire.
Non mais j'entends bien, mais c'est toujours la même conversation, c'est-à-dire que vous soyez capable de rouler à 180 km/h, c'est possible, mais lorsque vous entendez par exemple qu'il faut 60 mètres pour freiner, pour faire 400 mètres pardon pour freiner, et que entre le moment où vous voyez quelque chose et que vous serez à l'arrêt, il va se passer 400 mètres. Comment vous réagissez ? Est-ce que ça peut vous infléchir dans votre rapport à la vitesse ?
Oui et non, dans la mesure où... je dirais que moi, étant plus jeune, puisque moi j'ai 60 ans aujourd'hui, étant plus jeune, je roulais à des vitesses qu'on ne doit plus les révéler. C'est-à-dire qu'on dépassait allègrement 250 km/h. Avec des véhicules non bridés, forcément. Il y avait beaucoup moins de monde sur la route. Et on s'aperçoit souvent que, certes, on nous parle d'accident, que c'est mortel. Effectivement, un accident de la circulation peut être mortel, comme un accident de cheval, d'ailleurs. Mais globalement, l'accident, il est toujours lié à une erreur. Quand il y a deux personnes, c'est l'un ou l'autre, voire les deux, qui font une erreur de conduite. Et tout le monde peut faire une erreur. Mais quand on roule vite, on a l'obligation d'être, entre guillemets, présent. Et quand je vois des gens qui prennent des doses d'alcool relativement importantes, ça les désinhibe et après ils savent plus ce qu'ils font. Et effectivement, ça engendre de la vitesse. Moi, j'ai été pris il y a quelques années en arrière, à plus de 180 km/h, retenu sur une nationale parce que je doublais quelqu'un qui perdait des morceaux de sa remorque. Et j'ai pas voulu les prendre dans mon pare-brise. Je me suis fait attraper, je me suis arrêté. Et la réponse du gendarme, quand il m'a regardé, il me fait : comment vous avez fait pour vous arrêter ? Je lui ai montré la pédale de frein, je lui ai dit, faut appuyer dessus, c'est tout. Donc, effectivement, par contre, il y a une chose qui est très claire, vous avez des petits véhicules de la gamme Clio, Seat Ibiza et autres, qui sont capables de rouler, enfin, qui sont capables d'atteindre des vitesses de 180-190 km/h. Ces voitures, pour les arrêter, il faut globalement entre 8 et 12 mètres de plus que le même véhicule, enfin, qu'un véhicule capable de rouler aussi vite, voire plus vite, parce que son système de freinage est adapté au poids de la voiture et à la vitesse à laquelle on peut rouler. C'est-à-dire qu'avec une Clio, vous ne pouvez pas vous arrêter aussi vite qu'avec une Audi A8, en clair.
Bon,
à la même vitesse.
Bon, en tout cas, vous roulez assez vite, c'est ça que je retiens également.
Bah oui, je suis comme vous, je perds des points, je fais des stages.
Non mais moi je roule pas très vite par exemple, je vous assure je roule pas très vite moi sur l'autoroute. Je roule pas très vite, je peux perdre des points sur, mais je n'ai pas le goût de la vitesse.
Mais bon, la vitesse est un sport et moi je suis assez d'accord pour qu'on respecte la limitation de vitesse globalement. Je ne roule jamais vite en ville parce que c'est la peur de renverser quelqu'un qui va sortir entre deux voitures, ça c'est pas possible. Mais par contre, à 2h du matin, sur une autoroute où il n'y a personne, ouais, effectivement, s'il y a pas de problème, effectivement, je suis capable de rouler très vite.
Bon, mais uniquement dans ce cadre-là, uniquement à 2h du matin, s'il n'y a personne.
Bah, quand il n'y a personne, c'est-à-dire que dès l'instant, plus la circulation est dense, et moins il faut rouler vite, et ça, je
non mais ça, là-dessus, on est tous d'accord. J'entends ce que vous dites. C'est pour ça que, en fait,
des carambolages, pas tous les jours, parce qu'en ce moment, avec le Covid, il y a moins de monde, donc forcément, ça va moins vite, on en voit moins. Mais quand vous voyez que dans les bouchons, il y a des gens qui arrivent à se rentrer dedans sur 2, 3, 4, 5 voitures, alors que vous êtes quasiment dans les bouchons, vous roulez en dessous de 50 km/h. Parce que les gens sont au téléphone, ils envoient des messages, ils écoutent, ils prennent leur téléphone à la main, et ça, c'est inaccessible. Moi-même, quand je roule très vite, voire très très vite, donc au-delà des 2-0-0, il m'arrive d'avoir des communications téléphoniques et je suis équipé pour, je décroche au volant sans quitter le volant, et en disant, ben, je vous rappelle, et je raccroche. Parce que de toute façon, on ne peut pas être perturbé. Et d'un autre côté, le jour où on arrêtera, c'est-à-dire le jour où il y aura une partie de gens qui se prônent écologistes et qui n'en sont en fin de compte pas, arrêteront de manifester, de monter des associations pour interdire l'exploitation d'un circuit, qu'il soit de karting, automobile ou moto, pour que les gens puissent, entre guillemets, se défouler pour ceux qui aiment la vitesse, on peut et effectivement en reparler, il n'y a absolument aucun problème.
Ben merci, merci Pascal. Vous avez été plus sage.
Un conducteur de la gendarmerie nationale en tant que pilote, ce qu'on appelle un conducteur d'élite. Et donc, bah, effectivement, moi, je roule avec des voitures qui ont non seulement la capacité de rouler vite, mais de s'arrêter vite aussi.
Merci beaucoup. On pourra réagir, vous pourrez réagir sur la lettre des généraux. Et je rappelle que dans une lettre ouverte publiée sous forme de tribune relayée par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, parce qu'elle n'est pas parue la première fois dans cet hebdomadaire, une vingtaine d'anciens généraux à la retraite a dénoncé le délitement de la France. Moi, ce qui me frappe dans cette tribune, c'est que beaucoup manifestement ne l'ont pas lu et lui prêtent des intentions qu'elle n'a pas ou que ses militaires n'ont pas. Il y a une sorte d'exploitation politique, disons-le, et je pense à Jean-Luc Mélenchon notamment, mais et l'extrême gauche en général. C'est assez intéressant de voir comment elle est perçue, parce que moi je l'ai tribune sous les yeux, et je le répète, on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas. Donc c'est toujours ennuyeux lorsqu'on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait ou n'as pas commis ou n'as pas écrit. Donc là, vous pourrez réagir sur ce sujet, puis autrement, on peut encore parler des 180 km/h. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud
et Laurent Tessier.
Vous pourrez réagir aux confidences de Bernard Tapie hier soir aux 20h de TF1 après être revenu sur la terrible agression et le cambriolage il y a plusieurs jours. Il a évoqué le cancer qui le ronge depuis plus de 3 ans.
Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent, d'autant plus qu'aujourd'hui, la science va à une vitesse incroyable, donc il faut se battre.
Sur la vaccination contre la Covid-19, Bernard Tapie s'est dit en colère.
Si tu ne te vaccines pas, parce que tu veux pas. Et que t'en crèves, t'as choisi. Mais là, c'est tu fais crever les autres. Car tant qu'on n'aura pas un nombre de vaccinés qui permettra d'enrayer la pandémie, on fait mourir les autres. Donc, c'est pas seulement un combat pour soi. Merde, c'est un combat d'équipe. Il faut absolument se faire vacciner.
Bernard Tapie a raison, nous dit Muriel sur la page Facebook de l'émission. Quand on voit des créneaux pour se faire vacciner, qui ne trouve pas preneur ? Ça me révolte. Thierry applaudit l'homme. Il a fait de sa vie un combat éternel, une intervention pleine d'humanisme, de sincérité. Vous pourrez réagir au 32-10. Du football ce soir, première demi-finale aller de la Ligue des Champions à 21h. Le Real Madrid reçoit Chelsea. Entre Karim Benzema, attaquant du Real, et Olivier Giroud, joueur du club anglais, il risque d'avoir une bonne ambiance. Les deux hommes sont souvent comparés, parfois opposés. Et rappelez-vous ce que disait la star du Real Madrid en mars 2020 dans une vidéo sur Instagram.
Je te dis, est-ce que tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place ?
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1.
Ça promet sur le terrain, il va pouvoir réagir au 32-10, 3-2-1-0 dès maintenant.
Donc c'est une transition effectivement de karting et de F1 habile. Je vous en remercie. On est avec Romain qui est commercial, qui habite Tours et qui est pour la voiture bridée puisque c'est notre sujet, je le rappelle. Et Renault a proposé aujourd'hui que ces voitures soient bridées à partir de 2022 d'ailleurs. La vitesse de ces véhicules bridée à 180 km/h. Un accident sur 3 est dû à une vitesse excessive aujourd'hui. C'est la première cause de mortalité en ville. Donc, il faut regarder le phénomène en face. Volvo en a fait un marqueur depuis 10 ans, en annonçant comme objectif pour ses voitures le zéro accident. Il n'a pas diminué ses ventes depuis qu'il a annoncé ça. Au contraire. Donc, nous sommes avec Romain.
Bonjour Pascal.
Bonjour Romain.
Merci de m'accueillir.
Merci à vous.
Je suis très content de vous avoir dit. Donc, je vous écoute tous les midis et j'ai jamais pris... J'ai jamais eu le courage de vous appeler et aujourd'hui, bon, c'est un sujet qui me parlait un petit peu, donc j'ai dit tiens, allez, pourquoi pas, je me lance.
Pourquoi ça vous parle ?
Alors, pourquoi ça me parle ? Alors déjà, bon, j'ai 38 ans, hein, je vais essayer de pas parler comme un vieux con, comme on dit. pourquoi ça me parle ? Bah, parce que déjà, j'ai eu des parents qui étaient commerçants, qui ont eu un garage pendant plusieurs dizaines d'années, donc j'ai toujours baigné dans le domaine de l'automobile. On parle beaucoup de karting depuis tout à l'heure, effectivement, j'ai eu la chance de faire de la compétition pendant une quinzaine d'années. En plus, on était dans une région qui berce un petit peu le sport auto. Nevers-Manicourt, parce que je suis originaire de Nevers à la base. Et pour en revenir au sujet donc des voitures bridées, bah écoutez, moi j'ai eu la chance, étant plus jeune, d'avoir des voitures assez puissantes, des voitures qui faisaient parfois plus d'une centaine de chevaux, plusieurs centaines de chevaux. Et pour autant, moi quand je rentrais de course à l'âge de 14-15 ans, après les courses de team, mon père...
Oh, vous êtes en train de vous perdre là. Vous bougez là, Romain ?
Ah, pas du tout, non, je suis garé depuis quelques minutes déjà.
Bon, bah écoutez, là on vous a retrouvé, allez-y.
Donc je disais oui, effectivement, quand je rentrais de compétition le week-end, mon père me disait toujours, tu sais Romain, la compétition c'est un circuit, c'est un univers, la route c'en est un autre. Et sur la route, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu fais sur un circuit le week-end, etc. Donc toujours respecter les vitesses, toujours être vigilant et ne pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, bon, moi je suis commercial, je parcours 50 000 km à l'année.
Hey, c'est beaucoup.
Voilà, 50 000, on est dans la voiture, surtout en ce moment avec le Covid, on se restaure en plus encore dans les voitures le midi, donc c'est aussi pourquoi j'ai le temps de vous écouter le midi.
Et Romain, on va sécuriser la ligne parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Donc on va essayer de la sécuriser, on va changer de sujet à 13h55.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Donc je vous rappelle que dans une lettre ouverte publiée sous forme de tribune qu'a relayé le magazine Valeurs Actuelles, parce qu'au départ, cette... tribune a été publiée sur un site qui s'appelle Place d'Armes. Une vingtaine d'anciens généraux, c'est des généraux dits de brigade, hein, c'est pas des généraux de division ou de corps d'armée. Une vingtaine donc d'anciens généraux dénoncent le délitement de la France et cette tribune fait polémique parce que certains y voient comment dire, un appel à l'insurrection. Je pense pouvoir dire que ce n'est pas le cas dans cette tribune. C'est surtout l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon qui ont dit cela, pour te dire. Et c'est intéressant, en tout cas, de la lire et d'avoir peut-être votre avis. Tout le monde ne l'a pas lu, malheureusement. C'est assez court, hein, d'ailleurs. J'invite tout le monde à la lire pour se faire une opinion. François est avec nous. Bonjour, François.
Bonjour, Pascal. Je vais vous dire que j'ai un peu mal à ma démocratie ce matin pour
Pourquoi
avoir lu la... Ben parce qu'en fait, j'ai lu la tribune. Mmh. Et comme toute tribune qui a des aspects un peu polémiques, elle ouvre la porte à toute une forme de récupération politique, d'un côté comme d'un autre. Il faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. Par contre, il ne faut pas l'ignorer. Et on ne peut pas ignorer ce qui transpire là-dedans. Je crains de temps en temps qu'elle ne dise tout haut ce que certains de mes concitoyens pensent tout bas, quoi, quelque part.
Oh, ce qu'elle dit, c'est assez banal, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui le rapportent, hein, délitement de la société française.
Qui ouvre, mais vous l'avez justement dit, ce qui peut ouvrir la porte, c'est-à-dire qu'effectivement l'actif pourrait bouger si vraiment ça va pas. On dénonce.
Alors ça, c'est intéressant.
On dénonce plein de choses.
Oui, bouger avec. Attendez, que les choses soient claires. L'actif, c'est les militaires, pourraient bouger, mais pas de leur initiative, bien évidemment.
Ah, mais bien sûr.
Parce que le politique leur demanderait d'intervenir, ce qui est déjà le cas. Par exemple, les missions Sentinelles. Les militaires sont déjà sur le terrain. C'est ça que veut dire cette tribune. La tribune dit, attention, les politiques, c'est nous militaires qui allons nous retrouver en première ligne si vous ne faites pas quelque chose pour régler les situations. Voilà ce que dit cette tribune,
C'est quasiment à la fin, hein, quand il est dit, par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active. Donc effectivement, on peut y lire plein de choses. Maintenant, effectivement, je crains cette récupération politique d'un côté comme d'un autre, encore une fois, et quand je vous dis que j'ai mal à ma démocratie, c'est qu'on ne doit pas être sourd à ce qui se passe, aux problématiques. Nos concitoyens attendent de l'ordre, quel qu'il soit, attendent une forme du respect de l'autorité, parce que c'est ce qu'on apprend aux enfants, de respecter l'autorité, de respecter les uniformes. Il n'est pas normal qu'on caillasse des sapeurs-pompiers qui interviennent. Enfin voilà, tout ça sont des choses qui peuvent interpeller. Mais encore une fois, il faut réellement se garder d'une récupération politique à l'aube d'élections régionales, à l'aube d'une présidentielle dans un an, etc. Où tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Il faut pas y voir un angélisme non plus en disant tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mmh. On a des problématiques, mais encore une fois, tout passe, je pense, par le respect de cette démocratie, par le respect d'une forme de pédagogie expliquer à nouveau ce que c'est que la démocratie, pourquoi on a la chance de vivre dans ce pays qui permet à tous de s'exprimer, qui permet à tous de vivre le plus confraternellement, le plus fraternellement possible. On ne peut pas nier ce qui se passe dans les banlieues. Il ne faut pas nier, c'est pour ça que je parlais d'angélisme, on ne peut pas nier ce qui se passe dans les banlieues, on ne peut pas nier les drames quotidiens que vivent les policiers, on ne peut pas nier ce qui s'est passé à Rambouillet, le drame de Samuel Paty, ça c'est le nier, ce serait nier la réalité. Et à côté de ça, faire de l'angélisme en disant, bah, globalement, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, et tout le monde est beau, et on va s'en sortir. C'est pas ça non plus.
Bon, je vous coupe, François, parce que le flash arrive, et effectivement, vous allez pouvoir poursuivre le débat dans une seconde. On est en retard déjà. Olivier Bois, dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Olivier Bois.
Et d'abord les résultats de ce test grandeur nature à Barcelone. Un concert avec 5000 personnes masquées mais sans distance de sécurité. Et bien 15 jours plus tard, selon les médecins qui ont géré l'expérimentation, il n'y a aucun signe qu'il y ait eu des contaminations pendant le concert. Il y avait à noter un système de ventilation pendant le concert. Emmanuel Macron, lui, s'entretient cet après-midi à 17h30 avec des maires à nouveau pour parler de son plan de déconfinement. Il a évoqué hier une réouverture donc des terrasses à la mi-mai, réouverture ensuite territorialisée en salle, pas avant la fin mai, début juin, et également un décalage de l'heure du couvre-feu. Projet donc, alors que la situation s'aggrave encore dans les services de réanimation en France, on a dépassé désormais les 6000 patients soignés en urgence. De son côté, pour se protéger, la Belgique décide de fermer ses frontières aux voyageurs d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud pour éviter l'importation des variants. Le nombre de chômeurs en catégorie A a légèrement diminué en France au premier trimestre de 0,4%. Sur un an, la hausse reste de 6,3%, soit 224 000 chômeurs supplémentaires. Le sport, c'est la première demi-finale de la Ligue des Champions ce soir à 21h, Real Madrid face à Chelsea, avant PSG Manchester City demain soir, toujours à 21h. La météo de demain, ce sera un temps toujours beau et ensoleillé sur la moitié nord et dans le sud-ouest, plus instable dans le centre et sur la Méditerranée avec même quelques ondées possibles. Il fera demain matin entre 7 degrés à l'ouest jusqu'à 15 degrés à Nice. Et puis le quintet à l'instant à Bordeaux, l'arrivée provisoire le 16, le 5 et photo finish entre le 3, le 7 et le 13. On donne l'arrivée définitive tout à l'heure à 15h, Pascal.
Merci Olivier Bois.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Donc nous évoquons cette fameuse tribune des généraux publiée sur le site Place d'Armes, relayée par Valeurs Actuelles. Elle continue de faire des vagues. Florence Parly, notamment, a aligné quasiment sa position. C'était étonnant d'ailleurs sur celle du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle a fustigé les généraux. Elle leur prête des intentions, peut-être ou sans doute même qu'ils n'ont pas. Elle annonce des sanctions également, la ministre des Armées. Et c'est intéressant ce débat parce qu'il dit beaucoup de notre société. On était avec François il y a une seconde, on va être avec Bertrand peut-être, qui est gendarme. Bonjour Bertrand.
Oui, est-ce que vous... Alors, bonjour,
je rappelle que les gendarmes sont des... Vous ne l'êtes plus. Ah bon, je rappelle que les gendarmes... Je rappelle que les gendarmes sont des militaires. Est-ce que vous êtes reconnu dans cette tribune ?
Alors, je me suis reconnu dans cette tribune, à savoir que ce qu'ils dénoncent, le délitement et le fait que c'est... ce que j'appelle familièrement la fête du slip, ben oui, c'est le cas. Hein. On peut pas nier. Le problème, c'est qu'on a tout un tas de politiques qui sont sourds et aveugles, qui font les moulins à vent. Ça brasse de l'air, ça parle beaucoup, ça dit qu'ils n'ont pas la main qui tremble. Ceci étant, bon, je dirais que. Le Tunisien n'a pas eu la main qui a tremblé lorsqu'il a égorgé la policière. Heureusement, les policiers qui sont intervenus aussitôt n'ont pas eu la main qui a tremblé et ils ont pu le neutraliser définitivement, ce qui évitera une bouche à nourrir. Voilà quoi, on a beaucoup de gens qui disent même pas peur quoi. Même pas peur, sauf qu'il y a tout lieu d'avoir peur. Il y a tout lieu d'intervenir. Il faut arrêter cette politique de Jean Manchemou.
Bertrand, je ne sais que répondre, donc c'est évidemment votre avis et vous le partagez, comme on dit à 95%. Vous n'y avez pas vu, certains y ont vu une sorte d'appel à la guerre civile. Et moi, je vais lire cette tribune parce que c'est intéressant précisément de lire ce qui est écrit et comment les Français parfois sont interprétés. À la fin de cette tribune, il est écrit ceci. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actives dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers puisque les militaires interpellent les hommes politiques. Et ils leur demandent effectivement... C'est leur vision hein, de faire en sorte que ce laxisme, ce qu'ils considèrent également le laxisme, soit stoppé en France. Et avant cela, il y a toute une sortie sur le délitement qui, à travers un certain antiracisme, est-il dit, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation. Délitement car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations, etc. etc. Donc, je ne peux pas la lire entièrement, mais je vous en donne les grandes lignes, Bertrand.
Oui, j'ai eu l'occasion de la lire complètement et d'analyser. Et à la fin, il n'appelle pas au soulèvement du peuple français. Il dit simplement aux politiques, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne réagissez pas et si vous laissez la situation se pourrir, on demandera, les forces de l'ordre, elles font ce qu'elles peuvent parce que on a des gens qui attaquent les policiers sans aucun scrupule, à coups de mortier d'artifice. Et personne n'y trouve rien à redire, hein, mis à part faire des moulins à vent. La justice, il vaut mieux participer à un attroupement armé parce que on peut être relaxé ou c'est pas moi. Faites-vous prendre à 56-51 si ça date de 3 semaines et vous savez pas qui a conduit votre voiture. Vous prendrez 90 euros ou vous prendrez plusieurs centaines d'euros d'amende parce que vous n'aurez pas dénoncé le conducteur. C'est une justice à deux vitesses et puis il vaut mieux être dans un attroupement armé à lancer des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre que de rouler à 1 km heure au-dessus.
Non, non, donc, mais là, bon, revenons sur la tribune, parce que ça, c'est la tribune qui nous intéresse. C'était cela.
Ça s'appelle pas au soulèvement. Le militaire, c'est le dernier rempart face à une insurrection. Le politique, quand il verra que les forces de l'ordre, les FDO, ne peuvent plus réagir ou que ça va trop loin, les militaires interviendront. Ils n'ont pas été formés à caresser dans le sens du poil. Ils ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Ils sont formés au rétablissement de l'ordre. Et eux, c'est la guerre.
Non, non, mais c'est le sens. Et voilà. Je vous remercie, Bertrand, de votre intervention. C'est comme ça qu'il faut lire cette tribune. Ce que disent ces militaires, c'est attention, nos collègues seront amenés, si le politique ne prend pas les bonnes décisions, pourquoi pas, à intervenir dans des missions périlleuses. Mais pas de notre fait. C'est le politique qui, évidemment, décide. C'est pas nous, militaires, qui allons faire un putsch pour être au cœur de la société de cette manière-là. Voilà ce que ça veut dire. On agira sur ordre. Et effectivement, certains interprètent cela comme un appel à la guerre civile ou un appel, pourquoi pas, à un putsch ou à une série de faits de sédition ou des factieux, etc. Il ne me semble pas que ce soit le cas. On va marquer une dernière pause, peut-être une nouvelle pause plus exactement. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La tribune des généraux, elle fait parler. Elle était d'ailleurs sous les radars médiatiques il y a encore 24 heures ou 48 heures. Et puis, peu à peu, c'est assez étrange, c'est monté. Alors que cette tribune a été écrite la première fois le 13 avril, relayée le 21 avril par Valeurs Actuelles, et d'où on doit être aujourd'hui le 27 avril. Donc c'est assez étrange toujours comment une histoire monte dans l'actualité. Claire est avec nous, Claire qui habite Nantes.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Votre avis sur cette tribune et sur la réaction du gouvernement?
Alors, bien sûr que l'armée, elle a un devoir de réserve. Mais cette tribune, elle est rassurante. Rassurante parce qu'on est des milliers de citoyens à penser que ça ne va pas au niveau de la violence en France. Et ce sont là des militaires de haut niveau qui réagissent, qui sont prêts à prendre notre défense, à protéger les Français, qui soutiennent la police et qui soutiennent la gendarmerie. Et si je dis qu'elle est rassurante, cette tribune, c'est parce que le gouvernement, il est dans l'incapacité de faire preuve d'autorité, de garantir les droits à la tranquillité publique et au respect de nos valeurs. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est pour ça que cette tribune, heureusement qu'elle a été écrite. Et dans la...
Donc vous n'êtes pas d'accord tout à fait avec Florence Parly, le ministre des Armées?
Bien sûr que non. Et je pense, vous voyez, que le gouvernement... Il est en colère en ce moment. Il réagit avec violence, hein, une violence qui est morale, parce que en parlant de sanctions, parce qu'en fait, s'il réagit comme ça, c'est parce que son insuffisance, elle est dénoncée. Et ces militaires de haut niveau, eh bien, ils pointent l'incapacité de ce gouvernement à faire preuve d'autorité. Et quelle est leur réponse, justement? C'est donc, comme vous dites, les sanctions. Mais quelle honte, mais quelle honte. Pourquoi ils n'ont pas besoin d'être sanctionnés? Un, ils ne menacent pas la République. Deux, ils n'appellent pas à l'insurrection. Donc, ils ne doivent pas être sanctionnés. Voilà. Et heureusement qu'ils peuvent parler. Heureusement qu'ils ont parlé. Et ce gouvernement, ben là, il est dans l'incapacité. Et c'est pointé du doigt. Alors, évidemment que le gouvernement est mal.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Florence Parly également, qui effectivement, comment dire ça, paraît, elle prête, et c'est ça qui est très difficile quand on accuse quelqu'un de ce qu'il n'a pas écrit ou de ce qu'il n'a pas fait. C'est ça qui est toujours compliqué, où elle prête des intentions qui n'y sont pas. Donc, c'est compliqué. Comme, alors après, il y a toujours la part de l'interprétation. Je l'ai lu, je vais relire la dernière partie.
Oui.
Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Cette partie-là, il y a possibilité de l'interpréter. C'est-à-dire que si on est, j'ai envie de dire, de mauvaise foi, on peut dire, attention, regardez, ils sont en train d'écrire qu'ils vont être obligés d'intervenir. Ce n'est pas ça qu'ils disent. Ils disent que l'armée interviendra, mais évidemment, c'est le politique qui aura décidé que l'armée intervienne. Bon. Mais comme ce n'est pas écrit de manière aussi explicite que je le dis là, c'est-à-dire que si il manque cette phrase qui est importante, je veux dire, avec la décision du politique, l'armée sera en première ligne, etc. Et alors après, on peut dire, mais s'ils ne l'ont pas mis, c'est que, etc. Et puis on entre dans de la discussion. On entre dans la discussion. Mais moi, je n'imagine pas, comme vous l'avez dit, que des militaires de haut rang imaginent faire un putsch en France quand a servi la France. Et parce que c'est, faut être respectueux avec ces militaires et ce qu'ils ont fait. Et le courage qu'ils ont parfois sur le terrain. T'as envie de dire, Madame Parly, qui n'est pas passée par l'armée française, elle n'a peut-être pas été, comment dire, dans sa vie professionnelle aussi courageuse que ces gens-là. On peut le dire, cela, quand même. Donc, faut aussi les respecter, les écouter, les entendre et peut-être les traiter avec davantage, peut-être, de délicatesse, peut-être.
De respect.
Ou de respect, si vous le souhaitez.
De respect. Et vous savez, s'il y a une phrase qui est peut-être... moi, je ne trouve pas du tout ambiguë, mais ce gouvernement qui est en panique et en colère, à mon avis, il fallait trouver peut-être une phrase qui peut être mise à interprétation pour qu'elle puisse peut-être, elle, s'en sortir pour dénigrer cette rubrique. Mais en fait, tout est clair et net. Tout est impeccable dans cette rubrique.
Oui, parce sauf que cette rubrique, elle a un tort, c'est d'être récupérée par Marine Le Pen. Et à partir du moment où Marine Le Pen est d'accord avec cette tribune, oui, bah forcément, ça donne à cette tribune un aspect politique que peut-être au départ, elle ne voulait pas forcément avoir.
Mais bien sûr, elle n'a pas un aspect politique.
Elle est politique, puisqu'elle entre dans la cité, comme dit l'autre, mais elle n'est pas politique, politicienne, peut-être. Merci Claire, voilà. En tout cas, la parole doit tourner. Simon est avec nous. Non, Nicolas. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous Nicolas.
Très content de vous avoir au téléphone.
Je vous en prie, vous êtes producteur à Paris.
Exactement. Bah, écoutez, moi je suis très très content, comme l'éditrice précédente, que cette tribune sorte. Le seul bémol, si vous me permettez, je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de monde et notamment à nos amis de gauche, c'est qu'elle soit rédigée par des militaires. C'est le seul souci et qu'elle va être récupérée par Marine Le Pen et l'extrême droite. Je pense que c'est ça qui va être.
Oui, c'est toujours intéressant d'ailleurs, parce que les militaires, si on voulait être un peu provocateur, on leur rappellerait quand même à ceux qui n'aiment pas les militaires que c'est juste le général de Gaulle qui a sauvé la France en 40. On peut juste leur rappeler ça.
Exactement. Non, mais je trouve qu'elle dit tout, comme l'éditrice précédente, elle dit tout, cette tribune, elle dit qu'il faut revenir à des valeurs, qu'il faut arrêter de se laisser aller dans ce laxisme. Regardez, pour faire un parallèle, au quotidien. Regardez ce qui s'est passé à Rambouillet vendredi, et cette nuit à Trappes, à peine 24 km de Rambouillet, on tire au mortier sur des policiers. Mais je trouve ça incroyable que dans ce pays, une jeunesse ne peuvent pas comprendre que ça suffit. Il y a un temps peut-être pour que ce soit un petit peu le bazar, mais maintenant il faut se calmer. Et je pense qu'avec ce qui vient de se passer, avec ce qui se passe, il faudrait que cette jeunesse se calme un petit peu et qu'on revienne un petit peu à de la paix et à des valeurs, quoi.
Ben c'est ça qui est peut-être pas simple, parce que c'est aussi une minorité, hein, forcément, de personnes, et qui d'ailleurs, les premières victimes de ces minorités, c'est souvent ceux qui habitent dans ces endroits-là, dans ces endroits, parfois territoires qu'on dit perdus de la République, mais les premières victimes, c'est souvent les gens qui vivent à leur côté.
C'est bon.
Merci Nicolas, une pause et on revient.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes avec Simon. Bonjour Simon.
Bonjour Pascal.
Et qui veut réagir également sur cette tribune. Il semble que nous ayons plutôt des défenseurs de cette tribune depuis le début de notre conversation.
Ben oui, mais ça me semble logique. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ils mettent des mots sur des faits. Et ils le disent, et ils sont entendus. Et tant mieux qu'ils soient entendus, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à entendre les gens qui disent la vérité, qui disent la réalité. On a des gens qui nous masquent beaucoup de choses, c'est beaucoup de virtuels. Alors c'est peut-être l'évolution de la société qui est comme ça, mais aujourd'hui, on a enfin des gens qui nous disent les choses. Moi, je les vis au quotidien, je les vois tous les jours, sous toutes les formes. Et il faut, l'armée appartient au peuple. Voilà, il faut le savoir. Donc l'armée, c'est le peuple aussi, parce qu'elle est constituée de gens issus de tout horizon.
Sinon, qu'il y a un devoir de réserve classiquement hein, dans l'armée. Alors là, ce sont des officiers ou des généraux dits de réserve. D'ailleurs, ils ne sont pas de réserve, ils sont à la retraite pour beaucoup. Et a priori, il y a un devoir de réserve. Mais ils ont brisé ce devoir de réserve parce qu'ils considèrent qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont une libre parole. Voilà.
Oui, mais heureusement qu'ils osent briser ce devoir de réserve. C'est important. Il est temps que des gens sensés, des gens qui savent, qui connaissent, qui vivent la réalité de la société, qui sont au contact des populations partout sur le territoire. L'armée, elle est partout sur le territoire. Mmh. Que ce soit rural, que ce soit sur des centres-villes, sur des grosses villes, peu importe, elle est partout sur le territoire. Donc elle est au contact de la réalité, elle est au contact du peuple au jour le jour. N'oublions pas qu'il y a le plan Vigipirate, qu'il y a des militaires qui sont distribués.
Mais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez parfaitement raison.
Voilà, donc il est important de comprendre que l'armée est une image du peuple, et le sentiment du peuple. Alors c'est sûr que les politiques ne sont pas très heureux, parce que ça ne va pas dans leur sens, parce qu'ils sont pris la main dans le sac, et ça ne leur plaît pas. Donc la réaction est disproportionnée par rapport à ce qui a été écrit, parce que ce qui est écrit est juste. C'est juste. Il n'y a rien à dire.
Bah, c'est juste, c'est votre interprétation. Hein. Forcément, tout le monde ne pensera pas que ce constat est juste.
Bah, pour moi, il est juste. En tout cas, il me parle à 100%. Pour moi, il est juste. Je suis quelqu'un d'équilibré qui écoute toujours les deux voix. Je suis une balance donc de signes. Je suis quelqu'un qui aime l'équilibre. Et je trouve que c'est juste.
Alors, je répète les grandes... Parce que, en fait, on en a assez peu parlé de cette tribune parce que personne ne la lit. Véritablement, délitement est-il écrit, qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. C'est vrai qu'il y en a qui sont dans... Non, mais certains le disent, bien sûr.
Alors, la majorité.
Délitement. Alors, en fait, la question, est-ce que le fait que certains pensent cela, ce qui est indubitable, produit un délitement de la société française ? C'est là qu'il y a question. Alors après, chacun peut interpréter.
Et en bon juif que je suis, je vais répondre par une question. Est-ce que le régalien est toujours à la hauteur de ce que l'on attend, de ce qu'il devrait produire ? Est-ce qu'aujourd'hui l'État est à la hauteur de ses ambitions ? Et je ne crois pas.
Non, mais ce qui est amusant, Simon, parce que vous venez de dire que vous êtes juif.
Oui.
C'est ça, c'est ce que vous venez de dire. Et ce qui est intéressant, c'est politiquement les juifs français. De la Révolution française jusqu'aux années 2000, ils sont globalement, à grands traits, ils sont de gauche. Et la Révolution française, évidemment, c'était l'émancipation. Et puis, jusqu'aux années 2000, ils sont globalement de gauche. Et Robert Badinter incarne sa grande figure, évidemment, ministre de la Justice. Et à partir de 2000, globalement aussi, à grands traits, les Juifs français, ils vont passer à droite. Et c'est très intéressant, sociologiquement, politiquement, ce changement politique. Je ne sais pas si vous l'avez perçu de cette manière-là, Simon.
En fait, le problème, c'est qu'on est allé... Je pense, je parle pour moi, je ne parle pas pour la communauté, mais moi je pense que ma réaction elle est simple, c'est que je suis un humaniste profond, je suis pour que l'humain soit au centre du système et non pas un système au centre de la société.
Je vous coupe parce que c'est le débrief, mais je voulais une réponse plus claire sur droite ou gauche, mais on pourra entamer ce débat demain si vous le voulez.
Moi je suis profondément humaniste mais de gauche, je suis profondément de gauche si je mais le problème c'est que je n'ai pas de réponse.
Ah ben oui, donc c'est pour ça que beaucoup sont passés d'une certaine manière à droite. Merci à vous en tout cas, le débrief.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir aujourd'hui.
Vroom vroom.
Vroom vroom.
comme Renault compte limiter la vitesse de ses futurs modèles à 180 km/h, Alex est chauffeur routier, il a un avis bien tranché.
C'est quoi le projet ultime exactement de Renault? C'est perdre des parts de marché? C'est perdre des clients? Parce que nous en Allemagne, 180 km/h, sur les autoroutes vertes, hein, les Grünes Autobahn, c'est une vitesse moyenne.
Autre chose à rajouter, Alex?
La personne qui roule à 250 à Paris, c'est un crétin fini. Mais moi, en Allemagne, j'ai droit, j'y vais, quoi. Je veux dire, c'est comme ça.
Serge est moniteur d'auto-école et les propos d'Alex l'ont fait bondir de sa chaise.
J'ai entendu un nombre d'âneries par votre précédent auditeur qui vont me faire ma semaine. Faut être taré. Pour rouler à 180, faut être taré.
Bon, dans l'émission, il y a deux équipes. La team voiture. Et la team trottinette.
Envie de changer l'atmosphère d'attitude.
Notre réalisateur Greg Caranoni en fait partie.
Vous roulez en trottinette, vous, je crois.
Oui, il m'arrive
vous
de rouler en trottinette.
Vous êtes partie de ce peuple qui roule en trottinette,
oui,
désormais.
Oui, mais au moins, je ne roule pas à 250 km/h, vous direz.
Bonne punchline. Et puis là, Pascal, vous le chauffez bien, notre réalisateur.
On va demander à Greg Caranoni combien de mètres il fait avec sa trottinette en une seconde en Paris.
Eh ben, il doit faire 6 mètres, s'il roule à 20 km/h, il doit faire 6 mètres.
Voilà, exactement.
On prend le chiffre des dizaines et on le multiplie par 3.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et du coup, Greg tente aussi de vous déstabiliser, de faire une petite blague.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a.
Mais quel est le rapport?
Bah, c'est Renault.
Oh.
Du bon temps.
Très bonne vanne. Un commentaire, ami Pascal?
C'est rigolo, quoi.
Mais oui, mais heureusement, vous êtes très sérieux, Pascal, sur la route.
Non, mais moi, je roule pas très vite, par exemple. Bien sûr, je roule pas très vite.
Bravo, ami. Qu'avez-vous prévu dans les jours à venir?
Je vais faire un petit stage bientôt, je pense.
D'accord. Bah,
faut que je récupère 4 points d'un coup, avant l'été.
Pas bien. Breaking news. Sinon, avouez-nous autre chose tant que vous y êtes.
Bon, moi, je suis spécialiste également du 1 point. Ça part par un point, je suis d'accord avec vous.
Ouais, comme le FC Nantes en ce moment, un point par match. Sinon, la chanson que vous écoutez sur la route avant de vous coucher, sinon...
C'est quoi? Laisse-moi dans ta Benz, 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 c'est NTM. Mais avant, c'est quoi la phrase?
Dans ta Benz, 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 quand tu bois, quand
on passe à Montagne. En tout cas, c'est Joe Star. Ah ouais. Fan de NTM, bien sûr.
Pascal Pro, fan de NTM. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson interdite sur la route. Ah non!
Je connais pas cette chanson, en revanche, je connais.
Laurie.
C'est Jordi?
C'est la chanson interdite tout court, non?
Ça m'a échappé. Flavie Flamand dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la